Écoutez, nous voilà réunis pour cette soirée de travail, la première du séminaire chant lacanien. Et peut-être pour commencer, je pourrais vous dire que je suis plutôt très contente de vous voir ici nombreux, et que je trouve ça plutôt réconfortant. J'ai eu un petit moment de doute, un moment, et je me suis questionnée sur le sens que ça pouvait avoir, une réunion de psychanalystes comme ça le soir, quand il se passe de telles choses dans notre monde. Et puis en fait, assez vite, je me suis dit que non, l'impression que ça a un caractère dérisoire est une impression fausse. Bien sûr, on a quoi ? Nous avons les mots, c'est souvent pas les nôtres d'ailleurs, un peu comme nos camarades de Charlie avaient leurs crayons. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on soit là, ensemble, avec l'idée que nous avons à faire une élaboration qui se partage, quelque chose qui soit collectif et qui fasse avancer un petit peu nos préoccupations. Et nos préoccupations, c'est quoi ? C'est ce que nous enseigne la structure, à savoir qu'elle est trouée, qu'elle a à être nouée. Et donc, on peut en déduire, évidemment, un peu rapidement, mais que on peut faire toute sa place et toute sa valeur à l'incomplétude et à la complexité, à l'incomplétude du côté du savoir et à la pluralité du côté de la vérité. Et donc ça doit nous inviter à débattre, à discuter, à accepter ça. À accepter aussi que notre liberté s'inscrit dans des limites assez étroites, qui sont aussi celles qui sont liées aux effets du langage pour nous, et en sachant que ce langage, il est empreint d'une jouissance qui parfois se dérègle. Alors, nous allons donc commencer tout de suite ce séminaire chant lacanien. Ce séminaire, il va fonctionner selon un schéma que vous connaissez déjà. Nous aurons deux orateurs qui seront chaque fois discutés par l'un des deux de la séance précédente, et donc c'est le truc qui ne marche pas pour la première fois. Donc voilà. Et nous aurons aussi des invités extérieur à notre champ, et compte tenu du thème, cette année, ce sont deux historiens qui viendront pour deux soirées, Alain Corbin et Nicolas Offenstadt. Donc notre thème, c'est historiser, raconter, écrire l'histoire. Évidemment, tout ça, c'est construit autour du signifiant histoire, parce que les histoires, on sait bien que les analysants nous en racontent, parce qu'on constate bien qu'ils s'en racontent, parce qu'on constate également que quelquefois ils en font des histoires, et que parfois c'est pas trop mal quand ils en vivent des histoires. Donc, ça nous semblait intéressant de pouvoir travailler autour de ça. Et ça nous semblait intéressant aussi de vérifier avec des gens donc d'autres domaines quel était leur traitement de la chose. Et par exemple, l'écart entre les faits et leur lecture, enfin, c'est-à-dire l'interprétation, quoi, à sa place, évidemment, en histoire. Et on peut se demander, enfin c'est eux qui nous le diront, à vrai dire, je ne sais pas ce qu'ils nous apprendront, mais j'imagine qu'ils nous apprendront aussi la nécessaire distanciation pour pouvoir faire histoire. Donc voilà, donc plein de questions autour d'un séminaire qui devrait être riche Et en tout cas, on le souhaite comme ça. Et donc, pour commencer ce soir, nous allons entendre José Mattei, qui est psychanalyste à Paris et en institution, en cabinet et en institution, qui est membre de notre école. Et puis, nous écouterons aussi Jean-Jacques Gorogue, analyste à Paris et aussi en institution, c'est une institution que je connais bien, qui est AME et enseignant, non pas dans un, mais dans deux collèges cliniques à Paris et dans le Sud-Est. Alors, nous allons d'abord écouter José pour une intervention qui s'intitule « Pas sans histoire ». José, à toi.
La chaise est trop petite, trop basse pour moi. Il n'y a que des supports multiples du langage qui s'appellent la langue. Et ce qu'il faudrait bien, c'est que l'analyse arrive par une supposition, arrive à défaire par la parole ce qui s'est fait par la parole. Je cite Lacan dans Le moment de conclure. L'inconscient, disait Freud, il est supposé. Nous le déduisons de ses effets, c'est-à-dire qu'il apparaît dans les perturbations de la parole. Il est comme en instance pris dans une atemporalité. Du fait de sa prématuration, le sujet est d'une certaine façon prisonnier de ce qu'il a constitué comme sujet. Bon, je vais arrêter ça parce que c'est très énervant. Ce qu'il a constitué comme sujet et ce qu'il a fait de ce qu'il a reçu de l'autre. Freud dira « l'enfant est le père de l'homme ». Il précise que la psychanalyse se charge de découvrir l'origine du symptôme, qu'il y a un trou de mémoire des premières années de l'enfance, et d'ajouter que les nombreux mystères de la vie amoureuse de l'adulte ne se résolvent que par la mise en évidence des amours infantiles. Rien n'est détruit de l'enfance, reste latent, décomposé et recomposé, masqué, et qu'il s'agit de faire ressurgir à bon escient. Pour ce faire, le moyen du traitement, dit-il, est avant tout le mot. Et les mots sont bien l'outil essentiel du traitement psychique. Freud parle même de la magie du mot. Les mots sont de bons moyens pour provoquer des modifications psychiques, dit-il, en sortant le sujet des phénomènes morbides qui l'habitent. Mon hypothèse est la suivante. Les formations infantiles, les histoires, l'histoire de chacun, le roman familial trouverait son origine dans la structure, dans le trou de la structure qu'elle a pour but de recouvrir. C'est le pas de rapport sexuel qui fait histoire, S entre parenthèses, histoire avec un S, celle qui lit les symptômes, et l'histoire sans S, qui représenterait le symptôme de fin, celui auquel on s'identifie, qui dit ce que l'on est comme objet, et met fin aux histoires. À ce titre, à vérité menteuse, je vous proposerai peut-être d'adjoindre « histoire menteuse ». Point d'interrogation, question en débat. Jacques Drillon, notre invité il y a peu, écrit ceci. « L'imparfait est produit par le temps qui passe. Sans passé, point de civilisation, point d'identité. » Et d'ajouter que passé et présent se fécondent l'un l'autre. Le névrosé n'habite pas le temps présent. Il oscille souvent entre une fixation au passé et un avenir fait d'illusions. Entre regret et espoir qui le divise, le propre de l'analyse étant alors d'en faire un sujet au présent. Il y a une nécessité de se raconter des histoires, de penser. Pourquoi ? Parce que l'on parle. Cette parole nous lie et en même temps nous perd, nous parasite. Ces histoires nous perdent, nous embarrassent et nous donnent aussi consistance. Je vous propose ceci, l'histoire de structure. L'histoire, selon Freud, n'est pas seulement le refoulement et le retour du refoulé. Ce que l'on se raconte et que l'on raconte apporte des compensations satisfaisantes. Par le récit, forme épique de la parole, le sujet advient à son histoire et cela dit et non son rapport au langage. C'est par lui que peut être touché l'inconscient. Je cite « Ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge, c'est le chapitre censuré, dit Lacan. » Le récit retrace les souvenirs, représentations, affects, sensations, scénarios imaginaires, rêves, rêveries et pensées du sujet. Il formalise une fiction, un texte qu'il écrit au fur et à mesure que se déroule l'analyse et donc dans l'après-coup. C'est le pouvoir des mots que de permettre cela, un outil de l'analyse. Et c'est aussi cette épopée qu'il s'agira d'assécher. Quelques définitions. Histoire dans le Robert, et cela nous intéresse, son préfixe a à voir avec le grec histos, c'est le métier de tisserand, ce que l'on tisse. Puis, il est emprunté au latin historia, c'est un récit qui peut être fabuleux, ou bien fait de sornettes, ou le résultat d'une enquête d'où l'on peut tirer un savoir. Au fur et à mesure des années, il signifie aussi raconter des balivernes, des mensonges, mystifier ou tromper, chercher des histoires. En 1611, et en marge de ses emplois, histoire correspondait à un euphémisme, chose, machin, pour dire les parties sexuelles. Historier ou raconter, historier de historiare, veut dire chercher à s'informer, mais signifie aussi orner, décorer, des scènes de la vie des saints, par exemple, par des enluminures. Raconter vient de compter, calculer et narrer, énumérer. Du conte de fées, récit inventé, à conter fleurette, faribole, aussi dans le sens de tromper. Le sujet, en analyse, ne fait pas de son roman un récit fabuleux, bien plutôt un extraordinaire. Celui-ci l'encombre. Il voudrait que ça n'ait pas existé comme tel, que le passé soit différent, sa constellation familiale y tout. Le roman désigne... Non, vraiment. J'ai pas entendu, je buvais, c'est tout. Le roman désigne un récit en vers français, adapté des légendes, des aventures fabuleuses, du roman courtois, chevaleresque. Au XVIIe siècle, il devient synonyme de chimère, tissu d'idées fausses, fables, événements extraordinaires, parfois dénués de vraisemblance. La locution roman familial est définie par Freud en 1909 dans son article « Le roman familial du névrosé » où il montre comment l'enfant s'éloigne de la réalité en la déformant à la manière d'un roman, y mêlant son imaginaire. Le mythe se définit comme un récit fabuleux. Ce terme est emprunté au grec « mutos », signifiant « suite de paroles qui ont un sens », souvent associé à « épos », épopée, fiction épique. C'est une représentation idéalisée d'un état passé de l'humanité, d'un homme ou d'une idée. Il prend aussi la forme de construction de l'esprit, sans relation avec la réalité, et d'images simplifiées, souvent illusoires. Le mythe est conçu comme jouant un rôle déterminant dans le comportement, l'appréciation des choses d'un individu ou d'une collectivité. À côté de la réalité matérielle, il existe une réalité psychique aussi importante au regard de l'histoire du sujet. En fait, par ces théories, l'enfant cherche une réponse à l'énigme de la vie, au pas de rapport sexuel. Ce sont ces mirages qui recouvrent ce réel. Ne pourrions-nous les nommer délires ? Partir du délire dans la psychose, mais aussi dans la névrose. Le délire est-il une théorie sexuelle infantile ? Peut-il être considéré au même titre qu'un mythe, un roman, comme une réponse au pas de rapport sexuel ? Le mythe de la vie qui vient répondre au « que suis-je » et au « pourquoi suis-je là ?» La recherche d'une filiation, création d'une histoire qui permet de suppléer au trou du symbolique, comme cet enfant qui énonce « Je viens de Mars, on m'a envoyé sur la Terre, chez ma mère, je suis martien terrien, je ne comprends pas le langage terrien. Je suis né sur Mars, j'ai trouvé un bébé mort, j'ai pris le corps du bébé mort et je suis venu sur la Terre. Je suis moitié robot, moitié humain, j'ai atterri chez ma mère qui n'est pas robot, on n'est pas de la même planète. » Cette invention, ce mythe lui donne son ancrage dans le monde au même titre que le fantasme, fiction qui règle le rapport au monde et qui ne s'attrapera qu'au bout de plusieurs tours et détours du récit que fera le sujet en analyse de son histoire. De quelle façon a-t-il interprété ce qui lui est arrivé, ce qu'on lui a transmis de sa biographie ? Il y a, me semble-t-il, aussi une différence par rapport à l'histoire entre névrose et psychose. Pour l'une, il s'agit de déconstruction, des nouages, dit Lacan, et renouage autrement des nœuds de l'histoire d'un sujet. Pour le psychotique, il lui faut construire un nouage solide, qui tienne, qui fasse trou en mettant l'objet au dehors, hors corps, et ainsi tenter de le faire consister, ce corps. Le délire, Lacan le formalisera ainsi dans le séminaire Les Psychoses. Dans le cas des névroses, le refoulé reparaît in loco, là où il a été refoulé, c'est-à-dire dans le milieu même des symboles, pour autant que l'homme s'y intègre et y participe comme agent et comme acteur. Il reparaît in loco, sous un masque. Le refoulé dans la psychose, si nous savons lire Freud, reparaît dans un autre lieu, in altero, dans l'imaginaire, et là, en effet, sans masque. Le délire est une guérison, dira Freud. On connaît la formule, il parlera de substitut de réalité. Le sujet réinvente le monde au moyen de son travail délirant, qui est une reconstruction imaginaire. Lacan, sur ce point, est d'accord. Il parlera d'efficience du délire, puisqu'il vient parer, faire suppléance à la forclusion. Ce que l'on se raconte, les histoires, l'histoire, est, disons-le, délirant, que l'on soit psychotique ou pas. Freud, d'ailleurs, n'en fait pas le propre de la psychose. Dans un texte de 1924, il en explique le mécanisme dans la névrose et la psychose. Tandis que dans la névrose, il s'agit d'une réparation interne, comme dans les symptômes, la psychose, elle, compense la perte de la réalité au frais de la relation au ça. Elle crée une nouvelle réalité à laquelle le sujet ne se heurte plus. Celle-ci relève donc d'une construction. Freud parle de refonte. Il ajoute, c'est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction. Cette réédification est une prothèse imaginaire. De même, à propos de l'hallucination, Freud dira qu'elle n'est pas le propre du psychotique, qu'elle peut être généralisée à toute structure, dans la mesure où il la définit comme le retour d'un événement oublié des toutes premières années, c'est-à-dire un temps d'avant l'usage de la parole par l'enfant. Il parlera de pousser vers le haut de l'inconscient. Le refoulé, fragment de réalité repoussé, profiterait du retrait de la réalité pour s'imposer, comme dans le rêve, déformé. Il ajoute, la folie procède avec méthode et elle possède un morceau de vérité historique. Il ajoute, en donnant des conseils techniques, faire reconnaître au patient ce noyau de vérité historique contenu dans son délire et ramener ce noyau de vérité au point du passé auquel il appartient. Les délires sont des constructions qui sont des tentatives d'explication et de restitution du monde. Restituer le morceau de réalité manquant, dit Freud, afin de le mettre au dehors, une fois identifié, ajouterai-je. Il s'agit alors de faire quelque chose avec ce délire, s'attacher à le réduire. Il peut parfois devenir une boussole pour tenir dans le monde. Cette vérité historique dont parle Freud, n'est-ce pas cela, une fois l'entreprise accomplie, ce qui fera identité pour le sujet ? Question. Cette construction, entre guillemets, qu'il évoque, suivrait avec Lacan une logique déduite à partir des énoncés du patient par une mise en question des histoires qu'il se raconte. Vérité historique, oui, mais logique. Lacan est d'accord avec Freud. En 55-56, il parlera d'efficience du délire, de mise en ordre de la part du psychotique, de son travail rigoureux. Au fond, ces créations mythiques viennent donner sens à ce qui n'en a pas. Le non-rapport sexuel pour le névrosé, que des pulsions, il n'y a que des pulsions partielles, non liées, rien ne dit le sexe, et il n'y a pas d'accès direct à l'objet. D'où le manque qu'il s'agira de faire apparaître afin de vider les symptômes de leur part de jouissance. Accompagner le sujet psychotique afin qu'il invente un symptôme, nouant les trois registres RSI, et ainsi réduire le délire à sa plus simple expression. L'imaginaire, alors, ne partant plus à la dérive. Il s'agit de trouver à faire trou. Allons un peu plus loin et voyons les deux textes de Freud qui peuvent intéresser notre thème. Le roman familial des névrosés et un petit détour par les trois essais sur la théorie de la sexualité. Dans le chapitre « La sexualité infantile », Freud déplie ce qu'il appelle l'amnésie infantile, un phénomène courant d'ordre psychique qui, je cite, couvre d'un voile épais les 6 ou 8 premières années de la vie. Mais elle laisse des traces durables, voire décisives pour la suite. Elle est analogue à celle des névrosés dont le but est d'effacer les événements désagréables par le refoulement. Celui-ci n'équivaut pas à une disparition. C'est, je cite, « l'amnésie infantile qui créant pour chacun de nous dans l'enfance une sorte de préhistoire et nous cachant les débuts de la vie sexuelle » fait que l'on néglige de prendre en considération l'importance de la période infantile dans le développement de la vie sexuelle en général. Fin de citation. Le souvenir, l'amnésie infantile, est à distinguer du refoulement, lequel revient seulement à la conscience par les lapsus, les équivoques, provoqués par les équivoques, les erreurs de la parole. Il est lié non seulement aux événements déplaisants, mais contient dans ses représentations une part de jouissance. Cette amnésie préhistorique, précise Freud, ne peut être levée que par le travail analytique. À la note 58 de ce texte, il fait remonter au début de la parole de l'enfant la représentation du sexuel par des objets et de relations non sexuelles, différenciation. Mais il n'y a pas de succession chronologique entre l'auto-érotisme et l'amour objectal. Les pulsions sont partielles. C'est là que surviennent les questions et la curiosité sexuelle. D'où viennent les enfants, la différence des sexes, avec toutes les théories que chaque enfant échafaude. Elles sont donc nombreuses, chacun la sienne, singulière. Dans le texte, le roman familial s'y démontre que les histoires remontent à l'enfance. Tout petit, l'enfant commence par se raconter des histoires concernant ses parents. Ce sont des histoires nécessaires à son détachement d'eux. Et cette séparation, dit Freud, n'est jamais vraiment réussie. Pas complètement. L'enfant se sépare par la critique, survenant après déception, comparaison avec d'autres parents, par une certaine hostilité, etc. Freud évoque plusieurs moments, dont le premier qui se remémore facilement, sans doute parce qu'il est asexuel. Le second temps nécessite une construction dans l'analyse, comme pour le fantasme un enfant est battu. C'est celui qu'il appelle romans familiaux des névrosés, car il met en jeu une activité fantasmatique intense visant à corriger l'existence, à changer les parents dédaignés, à les remplacer par d'autres mieux. C'est lorsque l'enfant apprend comment les enfants viennent au monde que le roman subit une restriction particulière. Selon l'adage « Pater semper incertus est » et « Mère certissima », ce stade 2 du roman familial est le stade sexuel où figurent des situations imaginaires érotiques concernant la mère. Les premiers fantasmes asexuels sont désormais sexualisés par la connaissance acquise. Freud les appelle aussi fictions hostiles et agressives, fantasmes romanesques où les intrigues se multiplient, faisant varier les prouesses ou les échecs de différents protagonistes représentant parents ou substituts. Le père devient le plus fort, il est au-dessus du lot, la mère la plus belle, etc. Théorie sexuelle infantile, élaboration de la vérité du sujet, c'est de cela qu'il s'agit, dans le rêve et le désir sexuel qui anime le corps. En 1937, dans Construction de l'analyse, Freud précise que le but de l'analyse est, je cite, « d'amener le patient à lever les refoulements des débuts de son développement pour les remplacer par des réactions ad hoc ». C'est-à-dire en accord avec sa maturité psychique. Il s'agit d'engager le patient à se souvenir des expériences vécues et des affects qui les ont accompagnés grâce aux rêves et à l'association libre. Son souhait d'analyste est, je cite, « une image fidèle des années oubliées par le patient ». Par les indices repérés dans ce qui est dit, l'analyste, avec l'analysé, construit ce qui a été oublié et il propose au patient cette construction qui est plutôt une reconstruction. Il est question de restes conservés, ensevelis en un lieu ignoré, d'archéologie, inaccessible, insu, et pourtant, ces restes conservés sont actifs dans les dessous. Rien n'est détruit dans le psychisme. L'analyste, dit-il, veut recueillir la préhistoire de l'objet psychique. Pour Freud, il s'agit alors de construction, déconstruction, reconstruction, ayant pour but d'atteindre la vérité historique. Pourtant, c'est toujours incomplet, il en manque un bout. Les souvenirs refoulés surgissent le plus souvent de façon déplacée sur des objets approchants d'importance moindre. Il les qualifie d'ailleurs d'hallucinatoires, sans toutefois parler de psychose. On n'a pas encore assez apprécié ce caractère peut-être général de l'hallucination d'être le retour d'un événement oublié des toutes premières années, dit-il. Quelque chose de vu ou d'entendu avant la parole. Et je questionne la langue. Est-ce la langue ? Et de parler de la folie qui procède avec méthode du délire qui contient un morceau de vérité historique. Le délire tirerait sa force compulsive de cette source infantile, des temps originaires, des temps oubliés. Et c'est le détournement, le refus de la réalité qui imposerait le contenu délirant, le souvenir, d'une certaine façon déformé, dénié, venu à la conscience et devenu de ce fait acceptable. Freud nous donne alors un conseil technique. Débarrasser le noyau de ses scories, en quelque sorte de son mensonge, afin que le sujet le reconnaisse et le ramène au point du passé auquel il appartient. Le travail analytique consiste alors à rendre conscient ce qui a été oublié, déplacé, dénié dans le passé de l'histoire vécue. Lacan, dans sa conférence « Le mythe individuel du névrosé », écrite en 1952, dit que le rapport de l'homme à lui-même se mesure à l'usage qu'il fait de la parole et du langage. La parole ne pouvant se dire elle-même, il n'y a pas de vérité objective possible et pas d'expérience analytique objectivable. C'est dans un rapport à l'autre, comme dans l'analyse, que se déroule cette vérité, en même temps que la parole est sous la forme d'un mythe. La parole ne peut exprimer la vérité que de façon mythique. Le mythe oedipien est au cœur de l'expérience analytique avec la question du conflit fondamental. Ici, rivalité au père qui fait osciller le sujet entre cette image du père et celui du maître initiant aux relations humaines. Lacan donne une définition précise du mythe. Je cite, « Il s'agit d'une représentation objectivée, d'un épos, d'une geste exprimant de façon imaginaire les relations fondamentales caractéristiques d'un certain mode d'être de l'humain à une époque déterminée. » Dans l'analyse, cela se dévoile, se montre sous la forme de ce que Lacan appelle, premier point, l'actualisation, donnant comme exemple l'homme au rat, pour qui c'est l'actualisation de thèmes névrotiques, d'une prise d'angoisse, l'horreur et la jouissance à entendre le supplice, et de toute l'élaboration qui s'ensuit. Deuxième point, la constellation originelle, ou comment la personnalité du sujet s'est formée, d'où est-elle issue ? Constellation étant à prendre ici au sens des astres, ce qui a présidé à sa venue au monde, sa naissance, son destin, sa préhistoire, les relations fondamentales ayant présidé à l'union de ses parents, précise-t-il. Cette constellation est aussi formée de légendes, de traditions, très caractéristiques qui spécifient l'union des parents. Lacan déplie alors le cas de Freud et note tous les éléments qui composent le mythe, précisant qu'au cours de la cure, la constellation familiale sort morceau par morceau. Constellation, avec son scénario fantasmatique, les constructions obsédantes du patient, dont Lacan précise encore qu'elles peuvent confiner au délire. Le scénario l'histoire racontée est équivalente à l'originel et elle pèse de tout son poids dans la vie du sujet, l'encombre, et elle influe sur, je cite, tout ce qui fait de lui ce personnage avec un mode de relation tout spécial envers les autres qui s'appelle un névrosé. Et d'ajouter que le scénario se présente comme un drame de gestes qui est ce qu'il appelle la manifestation du mythe individuel du névrosé, en tant qu'il exprime, reflète, et il est accessible au sujet, la relation inaugurale, ici, père, mère, ami. Le 3, le trio, mais qu'il changera plus loin en 4. Et c'est le sujet qui lui donne sa valeur en dupliquant plus ou moins l'original. Je cite, « Tout se passe comme si les impasses propres à la situation originelle, à savoir ce qui n'est pas résolu quelque part, se déplaçait dans un autre point, schéma du réseau mythique, se reproduisait toujours en quelques points. Il y a une trame, en effet un tissage, qui relie les éléments entre eux et permet de défaire et refaire les nœuds mal faits. Lacan nous guide encore en précisant le troisième point. Après l'actualisation, la constellation originelle, il existe chaque fois une situation non pas tierce, mais de quatuor. Schéma général chez le névrosé. Cette introduction du quart élément est une critique du ternaire de l'Oedipe et afin de nous le démontrer, il prend le cas de Goethe qui, dans Poésie et Vérité, raconte dans sa biographie un souvenir de jeunesse. Goethe ayant enfin surmonté une déclaration comme une malédiction portant sur une interdiction à embrasser qu'on lui a proférée, que ses lèvres soient maudites, portées par une jeune fille adolescente, réussit à s'éprendre et à être aimé en retour par Frédéric Brion. Il a 22 ans, il passe par plusieurs déguisements dévalorisants pour l'approcher et la séduire. Ça confine à la mégalomanie délirante, dira Lacan. Goethe raconte cela dans son autobiographie, où il enjolive les souvenirs en rendant certains faits faux. Il y a là, dit Lacan, un dédoublement de la fonction personnelle, que l'on peut entendre comme division du sujet, et qui apparaît dans ces manifestations mythiques, ces histoires que se raconte le sujet. Le père, la mère, l'ami, le sujet dédoublé, et où la mort comme quart élément, voilà ce qu'il précise par la suite. Goethe recule devant la réalisation de son désir et rompt avec Frédéric. Voilà pour conclure cet exemple clinique. Freud, dans un souvenir d'enfance de Poésie et vérité, se sert également de l'autobiographie de Goethe afin de démontrer que la psychanalyse travaille sur la biographie, que les souvenirs peuvent être trompeurs, c'est-à-dire déformés, en relation avec d'autres éléments biographiques qu'ont fait les souvenirs écrans. Et ils méritent d'être interrogés, dépliés dans l'analyse. Il s'agit alors de défier l'amnésie. Le souvenir que Goethe rapporte est celui-ci. Il jette ses jouets en vaisselle par la fenêtre devant un public de voisins qui l'acclament. Freud analyse cette séquence, seul événement, il a 4 ans, rapporté par Goethe, donc acte hautement significatif. Pour Freud, d'éliminer l'intrus gênant, de déplaire à ses parents vis-à-vis desquels il éprouve de la rancœur, de n'être plus l'unique, le seul. Je cite, « Quand on a été le favori incontesté de sa mère, on en garde pour la vie ce sentiment conquérant, cette assurance du succès, dont il n'est pas rare qu'elle entraîne effectivement après soi le succès. Ma force s'enracine dans ma relation à ma mère aurait pu être mise, à juste titre par Goethe, en exergue à sa biographie. » Voilà ce qu'écrit Freud. En 1953, Lacan rejoint Freud en parlant de reconstruction dans la cure, dans Fonction et Champ. Reconstruction de cette œuvre qu'il est, de son être. Le sujet verbalise l'événement advenu, ses origines dans les post, mais au présent. Mais il indique, Lacan, qu'au fond, contrairement à Freud, la certitude des dates, des faits, n'est pas ce qui importe pour lui, car il ne s'agit pas de réalité, mais bien plutôt de vérité. Je cite, « C'est bien cette assomption par le sujet de son histoire, en tant qu'elle est constituée par la parole adressée à un autre. » Lacan parle d'ailleurs de documents d'archives, de la recherche des événements particuliers de l'histoire d'un sujet, des légendes familiales racontées, des traditions, de tout ce qui a présidé à la naissance et au développement du sujet. La vérité est là, écrite, elle est à retrouver. Ce sont les souvenirs de mon enfance, dit Lacan, impénétrables, quand je n'en connais pas la provenance. Elle montre sa présence, même dans son stock lexical, dans son caractère, sa personnalité, en somme, ce qu'il a formé et forgé et déterminé. Et il ajoute, ce que nous apprenons au sujet à reconnaître comme son inconscient, c'est son histoire. Pas de fixation à un stade, mais des stigmates historiques, honte, annulation, déni. Mais l'oublié se rappelle à nous dans les actes, dit-il. Pour conclure, je vous propose ceci. La cure pour le sujet consisterait à réduire les histoires, à les assécher de la jouissance qu'elles comportent, en faire surgir un dire, l'os historique, qui dit le non-rapport sexuel. La perte originelle étant impossible à retrouver, à nommer, le sujet ne peut qu'en cerner les contours et accepter cette mi-vérité historique. Elle est imprécise, à peu près. Pas de fin mot de l'histoire. Et pour le sujet psychotique, d'inventer une histoire avec un symptôme qui produise un trou en liant RSI et permettre ainsi à celui-ci de tenir dans le monde.